le magazine des Nations Unies.
La protection des civils, toujours au centre du mandat de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en RDC, dans la nouvelle résolution, la 2463. Léla Zerougui l'a souligné en début de semaine lors de sa deuxième rencontre de l'année avec la presse à Kinshasa, ainsi qu'à Goma et à Bukavu, par vidéoconférence. La représentante spéciale a également expliqué pourquoi ce mandat est de 9 mois. La MONUSCO disposée à accompagner les actions du ministère de la Justice pour désengorger les prisons en République démocratique du Congo. Un plan d'action triennal de l'administration pénitentiaire vient d'être élaboré au cours d'un atelier auquel des représentants de la société civile ont participé. Les détails dans ce magazine. Enfin, les Nations Unies toujours préoccupées par les crimes liés aux violences sexuelles. Cette semaine, le Conseil de sécurité a adopté une résolution accentuant la lutte contre ce phénomène dans les pays en conflit. Des personnalités de la société civile militante des droits de l'homme, comme le Congolais Denis Mukwege, ont été associées au débat avant l'adoption de cette résolution. Voilà tout pour les titres et tout de suite les détails.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour à tous et bienvenue au magazine des Nations Unies. La représentante spéciale était face à la presse lundi 22 avril 2019 à Kinshasa, ainsi qu'à Goma et à Bukavu par vidéoconférence. La rencontre a principalement tourné autour du nouveau mandat de la MONUSCO, tel que défini par la résolution 2463. Honoré Missenga Kalala, vous étiez là. Qu'est-ce qu'on peut retenir?
La rencontre a duré 75 minutes concernant le nouveau mandat de la MONUSCO. Leïla a rappelé que celui-ci a été prorogé de 9 mois, c'est-à-dire du 1er avril au 31 décembre 2019. Pourquoi 9 mois et non 12 comme par le passé? Réponse de la représentante spéciale.
C'est juste parce qu'il y a une revue stratégique pour définir quelles seront les priorités de la MONUSCO pour l'année d'après, lorsque le mandat sera examiné en décembre. C'est une période de laisser le temps aux autorités de préparer, finaliser le processus d'installation des institutions, les priorités, et donc de permettre au Conseil de sécurité, après une revue stratégique qui sera menée avec les autorités pour nous permettre de nous focaliser sur les questions essentielles pour stabiliser le pays en attendant, bien évidemment, le retrait de la MONUSCO lorsque le Conseil de sécurité estimera que la situation ne présente plus une menace internationale pour la paix et la sécurité.
Comme pour les mandats antérieurs, la protection des civils constitue la première priorité. Nous devons utiliser nos moyens et nos capacités d'abord et avant tout pour protéger les civils, a martelé la chef de la MONUSCO. Toutefois, la protection des populations civiles ne comprend pas que l'aspect militaire. Précision de Leïla Zerougui.
La résolution a clarifié qu'est-ce que ça veut dire protéger les civils, parce qu'on a toujours tendance à croire que protéger les civils, c'est aller faire la guerre. Et c'est donc une responsabilité uniquement des militaires. En réalité, ce n'est pas l'objectif. Nous sommes dans un pays où les problèmes, faut chercher toujours les causes profondes.
Concernant la situation politique en RDC, la représentante spéciale a reconnu les bonnes intentions du nouveau pouvoir et insisté sur le fait que les nombreuses attentes et l'espoir suscités par la nouvelle donne ne devraient pas être déçus.
Merci Honoré. Nous le disons également, le ministère de la Justice est engagé dans le processus de la réforme de l'administration pénitentiaire et compte sur l'appui de la MONUSCO. Un atelier s'est tenu à Kinshasa du 23 au 25 avril pour élaborer un plan d'action triennal dans le cadre de ce processus. Encore une fois, Honoré Missenga Kalala a suivi pour nous les travaux de cet atelier.
Le site d'Itex Rafika de la MONUSCO a servi de cadre aux travaux de réflexion sur la gestion de l'administration pénitentiaire en RDC. Les directeurs des services centraux pénitentiaires du ministère de la Justice, les directeurs des prisons de quelques provinces, ainsi que des experts de la section d'appui à l'administration pénitentiaire de la MONUSCO et des représentants de la société civile ont pris part à ces travaux. Les droits des détenus, les conditions des pénitenciers, les infrastructures carcérales et la réforme de l'administration pénitentiaire sont les axes autour desquels s'articule le plan d'action biennal élaboré à l'issue de 3 jours de réflexion. Dans son mot de clôture, le secrétaire général du ministère de la Justice a donné un cas parmi d'autres du dysfonctionnement de l'administration pénitentiaire en RDC. Georges Mfuluma Bimakanda.
À Makala, 9000 personnes, 6000 détenus, ça ne s'explique pas. Et parmi lesquels, les uns sont détenus pour avoir volé un bip, mais il est là depuis 2 ans. Et c'est l'État qui paye, qui doit les nourrir, qui les nourrit depuis 2 ans pour une infraction de 6 mois, de 18 mois.
Côté Monisco, la chef de la section d'appui à l'administration pénitentiaire, Patience Sai, a salué l'engagement des participants et promis l'appui des Nations Unies au plan d'action pour la réforme du système pénitentiaire en RDC.
Je vois l'engagement et le dévouement des participants. Vraiment, félicitations pour les travaux que vous avez réalisés. Et nous serons à côté de vous pour vous appuyer une fois de plus au niveau financier et logistique. Nous, pour nous et les autres organes des Nations Unies, pour pouvoir réaliser ça.
Membre de la société civile et participant aux travaux, Claude Moukeba a exprimé lui aussi ses sentiments.
Tout ceci est fait dans le souci de ramener le Congolais en milieu carcéral au niveau des conditions vivables, humainement parlant. Ça veut dire qu'il doit être sécurisé, il doit vivre dans un milieu assaini, propre, et ses efforts nous vont droit au cœur.
Selon les exposés faits au cours de l'atelier, la RDC comptait fin mars 25 376 détenus répartis dans 135 prisons, dont 65 sont subventionnées par l'État congolais.
Autre nouvelle, il faut encore plus d'efforts pour prévenir et mettre fin aux crimes liés aux violences sexuelles. Des hauts responsables de l'ONU et des militants de droits de l'homme se sont penchés sur cette question au cours d'un débat à l'issue duquel une résolution du Conseil de sécurité a été adoptée. On retrouve encore une fois Honoré Missenga Kalala pour les détails.
La résolution du Conseil de sécurité a été négociée par l'Allemagne avec les 14 autres partenaires de l'exécutif de l'ONU. L'objectif de cette résolution, c'est d'accentuer la lutte contre les violences sexuelles dans les pays en conflit. Les prix Nobel de la paix 2018, le Congolais Denis Mukwege et l'Irakienne Zadie Nadia Murad, ainsi que Amal Cloney, avocate libano-britannique, tous militants des droits de l'homme, ont participé au débat. Ces personnalités ont été déçues du texte final de la résolution. Le projet initial proposé par l'Allemagne portait des dispositions plus contraignantes, amputées lors du débat à la demande des États-Unis. Elles ont demandé, ces personnalités donc, l'établissement des tribunaux nationaux ou internationaux pour juger des coupables des violences sexuelles dans les conflits.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes à l'horizon 2030, c'est le premier des objectifs de développement durable des de l'ONU assigné à tous ses États membres. La RDC a-t-elle les moyens d'atteindre cet objectif à cette échéance? Deux experts du programme des Nations Unies pour le développement, PNUD-RDC, font le point de cet objectif. Il s'agit de Jean Amissi et de Idesbal Chinamula qui se sont prêtés aux questions d'Honoré Missenga Kalala. Suivez leur entretien.
Monsieur Desbald Chinamula et Jamissi, bonjour. Après les OMD, les objectifs du millénaire pour le développement, les Nations Unies ont mis le cap sur les ODD, objectifs de développement durable. Qu'est-ce que vous entendez par développement durable? Commençons peut-être avec vous, Desbald Chinamula.
Ok, merci. Commençons également par d'abord remercier la Radio Okapi pour l'opportunité qu'elle nous donne pour passer ces messages encore, la sensibilisation sur les objectifs de développement durable. Ce n'est pas la première fois qu'on revient sur les concepts de développement durable, dont nous disons toujours qu'il y a 3 grandes dimensions. Donc il y a la dimension économique, la dimension sociale et la dimension environnementale ou écologique. Et l'agenda justement du développement durable permet de concilier ces 3 ambitions, ces 3 objectifs pour permettre justement, en fin des comptes, l'essor de l'humain, de l'homme. C'est l'homme qui est au centre du développement. Mais vous savez très bien que pour entretenir l'homme, pour la prospérité de l'homme, malheureusement cela se fait souvent au dépens de la nature. C'est la nature qui paye les frais parce que les ressources ne sont pas toujours correctement utilisées et parfois aussi c'est l'écologie qui en subit, surtout en termes de grandes pertes. Donc ici, l'idée, c'est de voir comment inscrire la prospérité dans une perspective qui permet à l'homme d'asseoir son essor et de respecter les ressources naturelles. Donc je peux dire en quelque sorte, il y a 3 concepts clés pour résumer. C'est l'humanité, l'homme qui est au centre du développement, c'est la planète qu'il faut préserver pour continuer à assurer la génération future, bien sûr. Et puis, 3e concept, c'est la prospérité. Ce sont les 3 grands concepts qu'on peut retenir dans le cadre de l'agenda de développement durable.
Il y a au total 17 objectifs de développement durable. Le premier, c'est lequel?
Cette fois, M. Jean Amissi.
Oui, peut-être revenir encore rapidement pour compléter mon collègue Chinamula.
Les ODD, en réalité, c'est un programme universel. C'est une réponse ambitieuse au fait du dirigeant du monde qui était réuni à New York le 15 septembre 2015 à la 70e Assemblée générale des Nations Unies. Je disais une réponse ambitieuse et un engagement ferme de ces dirigeants du monde à relever les défis des pauvretés, des inégalités, de la discrimination, de changement climatique, de la gestion durable des ressources, des questions d'inclusivité, de gouvernance, de paix et de sécurité dans le monde. Et c'est donc, comme l'a dit mon collègue tout à l'heure, un programme qui repose sur trois pieds. Le premier pied, c'est le social, c'est-à-dire qu'il met l'homme au centre de toute chose. Le deuxième, c'est l'économique. Et le troisième, c'est l'environnement. Et le premier objectif de développement durable, c'est l'éradication de la pauvreté sous toutes ses formes et toutes ses dimensions.
Donc la pauvreté a plusieurs formes.
Et effectivement, la pauvreté, elle est multidimensionnelle. L'aspect le plus connu de la pauvreté, c'est généralement le revenu. On dit une personne dont le revenu est en deçà du seuil fixé. Toute personne qui a revenu journalier qui est inférieur à 2 dollars est considérée comme pauvre. Mais la pauvreté ne concerne pas seulement le revenu. Elle est multidimensionnelle. Elle prend les aspects d'accès aux services sociaux de base, notamment l'eau, l'électricité, l'habitat durable. Tous ces aspects-là font partie intégrante du concept de pauvreté.
Oui, Desmond Chinamula, je reviens à vous. Quelles sont alors les stratégies préconisées par les Nations Unies pour éliminer la pauvreté sous toutes ses différentes formes partout dans le monde?
On peut dire d'abord, effectivement, par rapport à cet objectif, pour la stratégie qui est adoptée, qui préconise bien sûr le système des Nations Unies et les nations qui ont adopté cet agenda finalement, c'est de faire des focus. C'est vrai qu'on connaît la moyenne des pauvres à travers le monde, mais l'idée ici, c'est de dire s'il y a des pauvres en moyenne, mais il y a encore des plus pauvres. Donc il faut vraiment essayer de faire des ciblages particuliers. Parce que dans les ciblages particuliers, on va trouver qu'il y a des gens qui ne sont pas dans la norme, qui ne sont pas dans la situation moyenne et qui sont donc en deçà des moyennes. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a des plus pauvres. Et un des objectifs et même des slogans global qui accompagne l'agenda 2030, c'est de ne laisser personne derrière. C'est vraiment aller vers les exclus qui sont très nombreux dans les systèmes, les exclus du système, qui sont souvent absorbés par la moyenne. Quand on parle des moyennes, on dit voilà, il y a autant de personnes qui ont un revenu de moins de 2 dollars, mais en réalité, il y en a qui ont jusqu'à 0,5 dollars, par exemple, et qui vivent avec ça. Et ça, c'est des catégories marginales auxquelles il faut focaliser l'attention. On a aussi des femmes, on a aussi des groupes vulnérables. Donc, on va aller dans les détails. C'est ça aussi la particularité de cet agenda, c'est aller dans les détails, c'est creuser davantage pour voir, au-delà des photographies globales, les éléments détaillés qui montrent qu'il y a des personnes qui, malgré les efforts qu'on peut faire, qu'on a fait, mais que les bénéfices ne profitent pas à tout le monde. Il y a des couches qui restent toujours en marge, malgré les efforts. Il faut donc cibler ces couches-là et orienter certaines actions particulières vers ces couches-là. Donc c'est vraiment ça, une des spécificités de la stratégie des Nations Unies.
Peut-être Monsieur Jean-Amissi a quelque chose à ajouter.
Et le rôle du PNUD, c'est un rôle de conseiller au gouvernement. C'est pourquoi on parle de la croissance trop pauvre, où on parle de l'inclusivité de la croissance. Et tous ces termes-là, c'est lié justement à cet aspect que mon collègue vient de développer tout à l'heure.
Est-ce que vous êtes optimiste par rapport à l'atteinte de cet objectif en ce qui concerne la RDC?
Optimiste, oui, on a des raisons d'être optimiste parce que la RDC d'abord a souscrit librement avec l'ensemble des autres pays à l'agenda du développement durable. La RDC également fait partie des pays pilotes qui ont fait des progrès importants dans la fixation des cibles au niveau national avec les concours de l'Observatoire congolais sur le développement durable que nous appuyons. Et le pays, bien sûr, a adopté une stratégie très très intéressante, c'est d'aller effectivement au niveau des provinces. Au-delà du national, il faut encore prioriser ça au niveau local. Donc au niveau local, il y a 4 provinces sur lesquelles déjà le pays a fait beaucoup de progrès. Tanganyika, Nord Kivu, Sud Kivu, Kasaï Central et je pense Maniema, ça fait 5 provinces. Les autres provinces, je crois qu'il y a une priorisation ce qui est en train de s'étaler sur l'ensemble des autres provinces. Je pense même qu'il y aura encore d'autres éléments qui vont se passer au niveau local, davantage au niveau des entités territoriales décentralisées. Cet exercice va permettre effectivement de relier les politiques nationales et les moyens, comme mon collègue Monsieur Amis le disait tout à l'heure, aligner les moyens, les budgets, effectivement aux priorités nationales et priorités locales. L'autre raison d'être optimiste, c'est voir l'engagement politique, voir également l'attente, la passion que ça suscite au niveau des autorités que nous avons accompagnées. Nous avons senti cette soif, ce désir immense, effectivement, de lier les cadres stratégiques de planification avec l'agenda de développement durable. Donc, nous avons espoir, même s'il y a des inquiétudes quand même, il faut qu'on le dise. Nous sommes déjà en 2019, bientôt c'est 2020, ça fait déjà 5 ans que l'exercice est censé avoir commencé. Donc, il ne reste plus que 10 ans pour le pays et il faut vraiment, vraiment accélérer. Sinon, il y a beaucoup de risques, effectivement, qu'on reste à mi-chemin.
Monsieur Jean Amissi, vous avez le même avis?
Oui, je voudrais compléter mon collègue et dire que c'est vrai, l'atteinte des objectifs de développement durable à l'horizon 2030 par la République démocratique du Congo n'est pas hors des portées du gouvernement, mais il faudrait que le gouvernement appuie sur 5 leviers importants si le gouvernement veut véritablement atteindre les objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Le premier levier, c'est le leadership et l'appropriation. Il faut absolument que les ODD soient appropriés au plus haut niveau de l'État et que le leadership soit le plus élevé possible pour conduire toute la politique qui mène vers la réalisation des objectifs de développement durable. Le deuxième élément, c'est le partenariat. Il faut un partenariat renforcé. L'État seul ne peut rien. Il faut à peu près 31 milliards de dollars par an pour atteindre les ODD. L'État n'a pas ses moyens. L'État n'a pas non plus nécessairement toutes les ressources humaines, technologiques et tout ça. C'est pourquoi il faut un partenariat renforcé avec le secteur privé. Le secteur privé va jouer un rôle central dans l'atteinte des ODD. Et dans tous les calculs qui ont été faits sur le 100% de financement requis, l'État doit mobiliser à peu près 30% et 70% par le secteur privé. Troisièmement, il faut une approche intersectorielle et coordonnée, c'est-à-dire qu'il faut un plan de mise en œuvre qui est piloté par le gouvernement ainsi que par ses démembrements provinciaux. Quatrième chose, il faut agir sur les accélérateurs de progrès, c'est-à-dire les ODD transformationnels. Parce qu'on ne peut pas peut-être travailler sur tous les ODD, mais on peut se focaliser sur les ODD qui vont influencer les autres. Cinquièmement, il faut des coalitions larges et diversifiées. C'est vrai, l'engagement du gouvernement central est vital, mais il est insuffisant en lui-même. D'où il faut mobiliser à la fois le Parlement, la société civile pour l'objectif commun de la mise en œuvre des ODD. Et enfin, il faut du financement, naturellement, pour atteindre les ODD. Le gouvernement ne peut pas rassembler les 100% de financement. Je vous ai dit, 30, c'est le gouvernement. 70, c'est le secteur privé. Mais le gouvernement peut aller au-delà de cela en cherchant des sources de financement innovantes, mais également en améliorant sa capacité de mobilisation des ressources internes. C'est important. La RDC mobilise à peu près 4 milliards à 5 milliards de dollars de recettes annuelles, mais lorsqu'on regarde son potentiel de mobilisation, son potentiel économique, il peut en mobiliser jusqu'à 15 milliards, d'où l'État doit absolument tout faire pour diversifier ses sources de financement. Il y a ce qu'on appelle les fonds verts, les fonds verticaux. Il y a plusieurs fonds qui sont disponibles et qu'il faut mobiliser. Il y a des innovations financières qui sont disponibles également, mais il y a les ressources internes aussi qu'on ne doit pas oublier.
Et des bases de Chinamoula, Jean Amissi, merci de votre disponibilité.
Merci.
Merci beaucoup.
Rendons-nous à Uvira dans la province du Sud Kivu où la Commission nationale pour les réfugiés, CNR, a lancé lundi dernier une nouvelle opération d'enregistrement biométrique des demandeurs d'asile burundais. C'est à Kinvivira, un camp de transit du ACR, que le coup d'envoi a été donné. L'opération était prévue pour 2 jours, soit du 22 au 23 avril 2019, et a pour objectif de régulariser des cas litigieux de demandeurs burundais désactivés de la base de données en octobre 2018. Dans la même province du Sud-Kivu, cette fois nous sommes en territoire de Fizi où le programme alimentaire mondial PAM a démarré pour sa part une opération de distribution des vivres du mois d'avril aux réfugiés burundais de Lusenda et Mulungwe. Plus de 30 000 personnes étaient concernées par ce don du PAM qui devait être distribué pendant 3 jours. Par ailleurs, les enfants des réfugiés burundais de moins de 3 ans d'âge ont bénéficié d'une autre assistance humanitaire, cette fois-ci de l'ONG Action Aid. Ces enfants, 80 au total, fréquentent la crèche et ont reçu chacun de l'ONG une paire de chaussures. Enfin, à Beni, au Nord Kivu, des officiers de la police nationale congolaise, PNC, formés sur leur rôle dans le domaine de l'ordre public lors des manifestations publiques. Cette formation de 2 jours s'est déroulée les 23 et 24 avril 2019 et a été assurée par la police de la MONUSCO UNPOL et le bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Le commandant de la PNC Beni, le colonel Safari Kazingoufou, a demandé à ces structures de l'ONU de multiplier ce genre de formation pour permettre à la police nationale congolaise de bien jouer son rôle.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Le magazine des Nations Unies revient sur l'entretien du coordonnateur de la riposte contre la maladie à virus Ebola pour l'Organisation Mondiale de la Santé, OMS, au Nord Kivu et en Ituri. Dr Michel Yao explique dans cet entretien que le travail de la riposte contre Ebola est actuellement impacté par les dernières attaques armées à Butembo et à Katwa. Dr Yao est aussi le responsable des opérations d'urgence de l'OMS Afrique. Il répond aux questions de Martial Papi Mukeba.
Docteur Michel Yao, bonjour.
Bonjour.
9 mois depuis le début de la riposte contre Ebola dans les provinces du Nord Kivu et Ituri, comment se présente la situation épidémiologique?
La situation épidémiologique reste préoccupante, notamment au niveau de certaines localités, Butembo, Katwa et certaines zones de santé environnantes comme Buoki, Masereka et Lubero. Nous avons de ces zones-là aussi une exportation de cas au niveau de Diakato, dans la zone de santé de Mambalako et de Mandima. Au niveau de Beni, la situation, on était à zéro pendant plusieurs semaines, maintenant nous avons quelques cas. Mais la bonne chose à Beni, c'est que nous avons une structure de réponse efficace en place et nous avons aussi une collaboration au niveau des communautés, ce qui nous permet de juguler. La plupart des cas de Beni sont des cas importés. C'est des cas soit liés au foyer en cours en ce moment à Biakato ou des cas qui proviennent des points chauds comme Katwa et Butembo. Mais la bonne chose à Beni, il y a une collaboration communautaire qui nous permet de détecter rapidement, de les isoler et d'apporter des soins à ceux qui sont encore vivants. Nous avons plus de 1300 cas enregistrés, près de 870 décès que nous déplorons. C'est déjà trop. Heureusement, nous avons aussi 387 personnes qui ont été guéries. La moyenne journalière est très élevée, au-dessus de 10 cas par jour, et donc la situation reste préoccupante dans certains endroits.
La semaine dernière, un médecin épidémiologiste de l'OMS a été tué au cours d'une attaque armée d'une structure de santé dans la ville de Butembo. Est-ce que cette situation a un impact pour l'instant sur le travail de la riposte contre Ebola dans cette ville, considérée aujourd'hui comme foyer de cette épidémie au Nord Kivu?
Il s'agit d'un problème sérieux qui vient s'ajouter aux difficultés que nous avons. L'incident a eu lieu le vendredi. Samedi, on a travaillé à minima, notamment au niveau des centres de traitement. Dimanche, c'était la même chose. Et aujourd'hui, c'est vraiment un travail à minima. On a rapporté que juste quelques cas, il y a le tiers des alertes que nous avons habituellement qui ont été investiguées. Et donc, ce genre d'incident affecte énormément le travail et nous ralentit. On verra l'impact dans les jours à venir. On est au-dessus de 10 cas par jour dans les points chauds ces derniers temps, mais cela pourrait se multiplier par 2, par 3 dans les jours à venir si on n'arrive pas à travailler. On essaie de tout mettre en œuvre pour reprendre au plus vite, mais nous devons aussi nous soucier de la sécurité des personnes. On ne met pas sa vie en danger pour même sauver une autre vie. Et donc, il est important qu'on s'assure que les mesures de sécurité soient en place, qu'on rassure d'abord ces équipes Ebola pour qu'ils puissent reprendre le travail sereinement.
Ça fait pratiquement 9 mois depuis que le ministère de la santé et ses partenaires, notamment l'OMS, la MONUSCO et d'autres organisations, travaillent pour apporter une réponse à l'épidémie à virus Ebola au Nord Kivu et à Ituri. Qu'est-ce qui manque pour mettre fin à cette épidémie?
Ce qui manque, c'est vraiment l'adhésion de tous, l'adhésion de tous les acteurs, que ce soit des leaders politiques, religieux, que ce soit des leaders communautaires. Il faut absolument que tout le monde puisse adhérer et c'est l'élément qui manque. Nous sommes venus en frères, nous sommes venus pour aider, pour accompagner les frères de la province du Nord Kivu et de l'Ituri à éliminer cette maladie. Nous n'avons aucun agenda, ni politique, ni financier. Ce n'est qu'un agenda de sécurité sanitaire pour éliminer cette maladie des populations. Mais sans leur participation, cela est impossible. Il y a quelques jours, il y a eu une réunion du comité d'urgence pour le règlement sanitaire international. Si la situation ne s'améliore pas, on reviendra à ce comité-là pour réexaminer la situation. Si cette urgence est déclarée urgence de santé publique à portée internationale, eh bien, des mesures internationales vont être prises pour limiter sa propagation. On ne peut pas mettre en danger les autres provinces, mais aussi les autres pays environnants. On ne peut pas aussi permettre à nos équipes de se faire assassiner, de se faire battre. Cela ne va pas perdurer éternellement. Si les gens ne veulent pas qu'on aide à éliminer cette maladie, on ne pourra pas mettre indéfiniment le staff à risque. Donc, j'en appelle à toutes les communautés pour qu'elles puissent se mobiliser et ensemble, on peut vraiment éliminer ce virus-là de cette province.
Docteur Michel Yao, Radio Okapi, vous dit merci.
Pour notre nouvelle de province, nous parlons des derniers hommages qui ont été rendus mercredi dernier à Goma au médecin de l'OMS Richard Valéry Mouzoko de nationalité camerounaise. Docteur Mouzoko a été tué vendredi 19 avril à Boutembo au cours d'une attaque armée contre les cliniques de l'Université catholique de Graben. La cérémonie de ces hommages s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités provinciales et nationales ainsi que des agences du système des Nations Unies. C'était avant le rapatriement de la dépouille mortelle dans son pays. Gabriel Wamenia pour le reportage.
C'est dans cette ambiance de tristesse et ponctuée de pleurs que la dépouille du docteur Richard Mouzoko est arrivée à la paroisse Saint-Esprit de Goma où une messe a été dite en sa mémoire. L'abbé Marc Kanamugire, dans son homélie à cette occasion, a souligné que le docteur Richard est un saint car il a été tué le vendredi saint de Pâques. Toutes les personnalités qui ont pris la parole louaient le courage du docteur Richard. Pour sa part, le coordonnateur de la riposte contre Ebola en RDC, le docteur Michel Yao, a qualifié le meurtre du docteur Richard d'ignoble et d'extrême cruauté. Il a toutefois réaffirmé la détermination de l'OMS à poursuivre les opérations de riposte contre Ebola dans les zones affectées par l'épidémie. Prenant à son tour la parole, le gouverneur intérimaire du Nord Kivu, Félix Lutai-Tchiroua, a condamné avec fermeté ce qu'il a appelé lui aussi des barbaries éhontées avant de demander pardon à l'OMS et au Cameroun dont les défunts est originaire. C'est aux environs de 11h30 que la dépouille du défunt a été rapatrié au Cameroun à bord d'un vol spécial du PAM. Goma, Gabriel Wamenya, Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies. Question aux Nations Unies.
Et je vous invite à suivre à présent cette question posée lundi dernier à la représentante spéciale Leila Zeroui au cours de sa rencontre avec la presse à Kinshasa.
Albert Omba, Numérica Télévision. Madame, vous avez attendu une réclamation du groupe islamique qui a revendiqué à l'Est un attentat. Est-ce que cela veut dire que la MONUSCO doit revoir sa stratégie dans cette zone ou c'est une façon que le gouvernement qui disait dans les temps qu'il y a des groupes islamiques pourrait avoir raison? Quel est le jugement que vous apportez à cette information-là?
Alors, votre question sur Daesh ou ISIS ou l'État islamique, oui, nous avons vu cette revendication. Nous sommes en train de l'examiner. Ce qui est sûr, c'est qu'elle est sortie sur un site qui est connu pour faire ce genre de déclaration pour l'État islamique. Est-ce que c'est de l'opportunisme? Est-ce que vraiment ils ont des liens? Parce que la déclaration est venue deux jours après. Donc, on est en train d'examiner, de voir. On sait
nous que l'attaque a été faite par ADF. Ça, c'est d'après les modus operandi et tout ça. Nous sommes en train de vérifier. J'ai envoyé une équipe pour avoir plus d'appréciation. Nous prenons au sérieux ce genre de déclaration. Nous ne les négligeons pas et nous considérons que nous devons renforcer la riposte là-bas. Nous devons renforcer la surveillance des frontières. C'est pour ça que je dis que c'est une zone où il faut avoir une stratégie multi-action. Il faut renforcer les frontières. Il faut mener des actions militaires. Il faut assurer le contrôle de tout ce qui peut alimenter ce genre de choses, c'est-à-dire les mines, c'est-à-dire le trafic illicite. J'espère qu'on aura une réponse beaucoup plus précise, mais on prend au sérieux et on considère que c'est une menace que nous ne devons pas négliger.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Tant déjà ce 1er mai, c'est la fête du travail. Le 3 mai, c'est la journée internationale de la presse. Le 5 mai, c'est la journée mondiale de l'hygiène des mains et journée internationale de la sage-femme. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est déjà la fin du magazine des Nations Unies qui vous a été présenté par Tina Salama, mise en onde Alain Goy, Honoré Missing Kalala, était au reportage, réalisation, également la coordination, sous la supervision de Martin Sebou-Jangui. Portez-vous bien et à bientôt sur Radio Capi. Ciao.